Bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunelli de France Bleu RCFM à Ajaccio. Et en direct de Madrid, Iman Huizar de Radio Exterior d'Espagne. Bonjour Iman.
Bonjour Monsieur Brunelli. Comment va la Corse?
La Corse va bien, mais c'est la France qui est plutôt dans la confusion en ce moment.
Bon, c'est le monde qui est devenu fou ces derniers jours surtout.
Allez Iman, tu nous présentes le sommaire de ce nouveau numéro de Cantara.
Oui, alors, ce numéro de Cantara, comme chaque fois, est très riche. Il y a des sujets très divers. Alors, restez tous, chacun trouvera son bonheur. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi. C'est par ces mots que le roi Mohamed VI a entamé son discours devant le 28e sommet de l'Union africaine au lendemain du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et les primaires de gauche, mon cher Thomas, les primaires de gauche en France relancent la course aux primaires socialistes. En Espagne, les candidats fourbissent leurs armes. En Égypte, l'instauration du divorce dit verbal, c'est-à-dire sans document officiel, inquiète une grande majorité de femmes. Ce divorce est courant au sein de la classe ouvrière. Dina Abdelmagid a enquêté.
Depuis 7 ans, la châtaigneraie corse est dévastée par le cynips. Cet insecte met à mal toute l'économie de l'intérieur, l'économie montagnarde. Seule solution, l'introduction de son prédateur, une autre guêpe chinoise, le torimus. La journée mondiale des zones humides, le 2 février, est consacrée depuis 1997 à la sensibilisation du grand public. À ce titre, Maya Dassili nous présente un nouveau concept élaboré par la Direction Générale des Forêts de Tunisie et le WWF, le Fonds Mondial pour la Nature. Je vous rappelle que Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Boedma, France Bleu, RCFM, Pierre Mar et Thomas Brunet, dis donc, et Pierre-Louis Alessandre. Chaîne Interrabat, Nadir Abelhoutout et Mohamed Chafoui. Radio Tunis, chaîne internationale, Maya Dassili. Radio Le Caire, Dina Abdelmeguid. Et Radio Extérieur d'Espagne, Iman Huizar. Iman, tu nous présentes notre première chanson.
Oui, notre première chanson est marocaine. Nadira a choisi une chanson tamazir, c'est-à-dire berbère. C'est le groupe Tifyour qui interprète la chanson Lilia Yadzine. Tifyour est une troupe qui reste dans le style musical du riff, mais sur un ton moderne.
Put your hands up in the air.
Voilà, c'était de la chanson berbère moderne que nous a choisie Nadira. Au Maroc, on y reste avec notre premier sujet, Iman.
Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. C'est par ces mots que le roi Mohamed VI a entamé son discours devant le sommet, le 28e sommet de l'Union africaine au lendemain du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Dans son allocution, le roi Mohamed VI a évoqué une collaboration éclairée, fondée sur la solidarité et la paix. Nadira Belhoutout a invité Khalid Glaoui, spécialiste de l'Afrique.
Une forte charge émotionnelle lundi 30 janvier, une journée historique. Le Maroc, membre fondateur de l'Union africaine, a repris sa place au sein de l'Union. Khalid Glaoui, vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique. Il y a un avant et un après 30 janvier.
Vous savez, en diplomatie, il y a deux interdits. Le mot « jamais » et surtout ne jamais insulter le futur. Donc je pense que le Maroc sera dans cette même lignée de pouvoir ouvrir les bras à tous ceux qui veulent travailler en commun accord pour le salut de notre continent et pour le bien-être des Africains en général. Premièrement. Seconde chose, c'est qu'il y a un vrai problème à l'intérieur de l'Union africaine. C'est que la majorité des pays de l'Union africaine, de cette instance, ne reconnaissent pas un État qui est membre, soi-disant fondateur de cette Union. C'est quelque chose d'assez paradoxal et incompréhensible, principalement sur le plan juridique. Bon, mais c'est une chose qu'on a eu, on est quand même habitué à suivre cet état de choses et certains dépassements des cadres juridiques, principalement internationaux. Mais le fait est que le Maroc a ouvert la porte à toute forme de collaboration avec les pays africains. Le modèle que le Maroc présente est assez recherché, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, notre partenaire historique. Aujourd'hui, il y a l'ouverture sur l'Afrique de l'Est. Prochainement, il y aura une ouverture sur l'Afrique australe. Et j'espère que notre Afrique du Nord sera à même de comprendre les nouveaux challenges qui sont devant nous.
Et donc, on peut dire aussi que l'Afrique a besoin du Maroc, d'un pays avec aussi important que le calibre du Maroc. Et d'ailleurs, la présidente du Liberia, Madame Ellen Johnson, l'a dit, on a besoin d'un pays aussi fort que le Maroc.
Déjà, il y a les majors qui sont en train de plus ou moins contrôler l'Union africaine, à vrai dire l'Afrique du Sud, le Nigeria, en quelque sorte l'Égypte et l'Éthiopie. Alors, le Maroc arrive à un point nommé afin de pouvoir mettre beaucoup plus d'équilibre entre les régions africaines, entre les cultures africaines et entre les intérêts politiques et géopolitiques de la région. Bien sûr, c'est un acteur très important. C'est le deuxième investisseur interafricain. C'est un acteur très important, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan de la formation continue, sur le plan du développement local.
Géographiquement parlant, on est vraiment le pont vers l'Europe. Et là, c'est très important pour les échanges économiques.
En fait, le Maroc est un hub régional et continental très important entre l'océan Atlantique, la Méditerranée, l'Europe, bien sûr, le monde arabe et le continent africain. Et le modèle qu'il présente est un modèle d'intégration économique, est un modèle de coopération triangulaire, très apprécié d'ailleurs par nos partenaires historiques, qu'ils soient occidentaux, asiatiques, arabes ou bien sûr africains. Donc tout cet état de choses ne fera que qu'accentuer la position du Maroc afin de pouvoir être un vrai leader pour le développement et pour le bien-être de tous les Africains. Et surtout, revenons au discours de Sa Majesté quand il disait il va falloir se baser sur les possibilités et faire confiance sur les possibilités africaines, sur l'homme africain et principalement faire confiance aux capacités des Africains à pouvoir générer des modèles de développement intégrés et salutaires.
Et d'ailleurs, le thème justement du sommet, c'est la jeunesse en Afrique, les ressources humaines. Et on peut dire que vraiment la sagesse africaine a prévalu à ce moment très particulier au niveau international. Les Africains ont compris que l'heure est au partenariat et au travail pour faire face ensemble à tous les challenges écologiques, économiques, du point de vue aussi ressources en eau, ressources sécurité alimentaire, tout ça a prévalu. Et je vous remercie beaucoup aussi, Khalid Chegraoui.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
C'était le discours du roi et ce retour qui est important du Maroc au sein de l'Union africaine. On peut dire que c'est un événement historique parce qu'on sait que le Maroc s'était retiré pour des raisons plutôt géopolitiques. Donc le Maroc, Imane, peut tenir une place quand même importante au sein de cette Afrique qui a besoin d'être émancipée et qui a besoin, et ça on le souhaite, qu'elle prenne enfin son destin en main.
Oui, le Maroc en fait retrouve sa place et du coup l'Union africaine a réuni tous les pays africains. Évidemment, le Maroc est un pays important, le Maroc peut avoir un apport important comme le souligne si bien l'invité de Nadira. Donc oui, l'Afrique doit se prendre en main. Il faut dire que depuis la création de l'Union africaine, beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, le fait de geler la participation de certains pays après un coup d'État. Beaucoup de choses ont été faites aussi au niveau du respect des frontières héritées de la décolonisation. Et donc, y a des choses qui se font en Afrique. Mais bien sûr, c'est un continent qui est très convoité, où des conflits éclatent pas par la volonté des Africains eux-mêmes, mais pour des raisons beaucoup plus liées à des multinationales ou des lobbies extérieurs.
C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde et des lobbies, tu l'as dit, des sociétés internationales qui font leur marché en Afrique. Il y a des nations qui utilisent l'Afrique un peu comme leur terrain de jeu et souvent leur terrain de guerre. Et je crois que le 21e siècle pourrait être celui, enfin, d'une émancipation totale de l'Union africaine. Et peut-être que cette entrée du Maroc et du roi Mohamed VI, qui est quand même un personnage important aujourd'hui hein, au sein de la politique mondiale, pourrait donner ce petit déclic qui va faire que cette Afrique va devenir enfin une Afrique africaine.
Voilà, eh bien, nous l'espérons tous, parce que ce serait vraiment dommage que ce soit un autre siècle manqué pour le continent africain.
Allez, on va parler de politique. Si en France, eh bien, on aime bien parler de politique, en Corse, je n'en parle pas. C'est le cas en Espagne. On a eu, durant cette année 2016 qui s'est écoulée, de nombreux feuilletons qu'on a suivis avec toi, Iman, sur les élections, et etc., etc. Et puis là, maintenant, on a l'impression que, c'est toi qui vas nous le dire, hein, que c'est les primaires de la gauche en France inspirent les socialistes espagnols.
Oui, les primaires de la gauche en France semblent avoir redynamisé la course aux primaires. Ces primaires allaient se faire de toute façon, mais ça a été redynamisé. Dans l'attente de l'annonce de la candidature de Susana Díaz, la favorite de l'appareil, des barons et même de Felipe González, et après l'annonce de la candidature de Patxi López, une candidature de ravivochement d'un parti brisé, voilà Pedro Sánchez, l'ex-secrétaire général, forcé à démissionner le 1er octobre, qui annonce qu'il se porte candidat. Il se présente contre l'appareil, contre les barons, contre l'IBEX 35, et donc c'est la veillée d'armes au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol.
On écoute ton reportage, reportage signé Emmanuel Hazard.
Pedro Sánchez, l'ex-secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, défenestré par les barons du parti le 1er octobre dernier à la suite d'une réunion du comité exécutif fort houleuse, est prêt à redescendre dans l'arène. Le 28 janvier, il était à Dos Hermanas, en plein fief de la grande prétendante, non déclarée certes, au poste de secrétaire général, Susana Díaz, la présidente de la communauté autonome d'Andalousie. Dos Hermanas est une municipalité sévillane gouvernée par Francisco Toscano, critique envers Susana Díaz. Et devant quelques 2500 personnes réunies sur une place à l'air libre, sans autre logistique que la détermination du maire, des présents et bien sûr de Pedro Sánchez lui-même, ce dernier annonce.
Será un honor liderar vuestro proyecto colectivo. Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la secretaría general del Partido Socialista.
Ce sera un honneur mener votre projet collectif. Je veux vous annoncer à tous les militants que je serai votre candidat au secrétariat général du parti. Et le programme? Eh bien, à gauche toute, assure Sánchez.
Unir con nuestro voto al Partido Socialista para luego unir a la izquierda y derrotar a la derecha.
Unir à travers notre vote le Parti Socialiste, pour ensuite unir la gauche et vaincre la droite. Parmi les fidèles appuis de Sánchez, Odón Elolsa, député frondeur et ex-maire socialiste de San Sebastián.
El equipo de Pedro Sánchez es un equipo porque hablamos de un proyecto colectivo muy trabajado en cuanto al proyecto a presentar, el modelo para el país, democracia interna, cómo refundar una socialdemocracia que está muerta hace 30 años. Y yo no tengo nada claro que Pedro Sánchez no pueda ganar en un debate democrático sin trampas al aparato. Y no sé por qué se dicen esas cosas.
L'équipe de Pedro Sánchez est une vraie équipe parce que nous parlons d'un projet collectif très travaillé en ce qui concerne le projet à présenter, le modèle de pays, la démocratie interne, comment refonder une social-démocratie morte depuis 30 ans. Et je ne vois pas pourquoi Pedro Sánchez ne pourrait pas vaincre l'appareil dans un débat démocratique sans tromperie. Je ne sais pas pourquoi certains colportent cela. Et Pedro Sánchez ose les phrases choc pour dire que les jeux ne sont pas faits.
Veo que hay agua en la piscina.
Et s'il n'y avait pas tant d'eau que cela dans la piscine? Les questions qui fâchent pour plus tard. Aujourd'hui, dans le camp des frondeurs, l'heure est aux certitudes et les primaires socialistes françaises gonflent les voiles. Les frondeurs revendiquent la juste cause de Sánchez. Nous écoutons ici le chef de file du courant Izquierda Socialista, le professeur José Antonio Pérez Tapias, recteur de la faculté de philosophie de Grenade, qui accable l'appareil du parti au lendemain de la démission de Sánchez.
Ayer fuimos todos testigos de una rebelión antidemocrática, así la he calificado, por parte de los miembros de la Ejecutiva Federal que de manera sumamente desleal presentaron su dimisión haciendo una utilización abusiva de los estatutos para provocar la dimisión del secretario general.
Hier, nous avons tous été témoins, dit Tapias, d'une rébellion antidémocratique de la part de membres de l'exécutif fédéral qui, d'une manière extrêmement déloyale, ont présenté leur démission, faisant ainsi une utilisation abusive des statuts pour forcer la démission du secrétaire général. En face, Susana Díaz continue à effeuiller la marguerite et le seul candidat déclaré est le basque Patxi López, dont la candidature a été présentée comme celle de la réconciliation ou du ravivochage, dont la candidature aussi a été perçue parfois comme une sorte de lièvre pour favoriser Susana Díaz. Le Parti socialiste est une ruche assourdissante de rumeurs.
Une ruche assourdissante de rumeurs, ça résume la politique, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit partout, et même maintenant aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ces primaires socialistes espagnoles ressemblent étrangement aux primaires socialistes françaises. Il y a des frondeurs, il y a des gens que l'on jette par la fenêtre, mais qui reviennent par la porte. C'est un peu ça?
Oui, c'est un peu ça. Et surtout dans le cas de Pedro Sánchez, on le croyait mort politiquement, parce que une fois que vous êtes éjecté de l'appareil, et que vous avez contre vous l'appareil, que vous avez contre vous les barons, que vous avez contre vous la grande finance de l'IBEX 35, eh bien on a l'impression que vous êtes un cadavre ambulant. Eh bien non, parce qu'il a pour lui une bonne partie des militants de base, et c'est ce qu'il est en train de dynamiser. Et il s'est même payé, en fait, le toupet, j'allais dire, d'aller dans le propre fief de Susana Díaz pour annoncer sa candidature. Alors, c'est une campagne qu'il est en train de faire en allant comme ça, de place publique en place publique, de petites salles polyvalente, de village en salle polyvalente, et il est en train de gagner du terrain. Tant et si bien que la candidature qui était la candidature, disons, de l'outsider, Patxi López, se trouve menacée directement.
Ben en France, c'est un peu ça, entre Benoît Hamon, qui était le frondeur sous le règne de François Hollande, a déjoué tous les pronostics et est arrivé en tête de cette primaire socialiste devant le Premier ministre sortant, Manuel Valls. Et bien sûr, ça crée un schisme énorme au sein du Parti socialiste, et je dirais même de la gauche française. Et le troisième larron, qui est Emmanuel Macron, pourrait tirer les marrons du feu. Mais enfin, en politique, rien n'est acquis. On a vu avec François Fillon du côté de la droite et les élections qui auront lieu dans 3 mois, on ne sait pas encore qui sera vraiment en lice. On n'a pas encore le casting total. Il faudra attendre parce qu'il y a la justice qui s'en mêle. Et puis pour une petite précision, l'IBEX 35, c'est l'équivalent du 440 français.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est les 35
J'ai omis de le dire.
Non, mais c'était clair. On est là pour ça aussi.
Justement, cette situation qui a donné, qu'ont donné les primaires en France, en fait, c'est aussi une ouverture parce que tous les candidats pensent « j'ai ma chance ». Même si je ne suis pas donné vainqueur, et alors là, la candidature de Pedro Sanchez, c'est vraiment cela. C'est de se dire, eh ben, écoute, personne n'aurait parié 5 euros pour lui.
Mmh. Fillon non plus d'ailleurs.
Et Fillon non plus, et voilà, ils ont causé la surprise.
Voilà, donc peut-être des surprises du côté de l'Espagne. Espagne, on y reste, et tu vas nous présenter David Otero, que l'on appelle El Pescao.
El Pescao. Et en fait, c'était son surnom jusqu'à ce qu'il se consolide. Au départ, David Otero, connu aussi comme donc El Pescao, a été membre du groupe de punk rock El Canto del Loco, aujourd'hui dissous. Et alors, il s'est ensuite lancé en solo. Il est chanteur, guitariste, compositeur. Et je vous propose aujourd'hui le thème « Al otro lado del mar ». De l'autre côté de la mer, c'est un thème qui est extrait de son troisième CD, Ultramar.
Hoy me dejaste una sensación extraña al despedirte, como si no fuera a durar para siempre. Nunca te gustaron las segundas partes y no sé cómo recuperarte. Me lanzas preguntas sé responder, algunas me asustan y otras me hacen pensar que el tiempo se agota y no lo podemos parar, las cosas que cambian y a nunca regresar al otro lado del mar, donde no se puede, encontraré mi lugar para que me haga fuerte, esperaremos al sol que con un rayo de luz tal vez nos pueda curar todo lo que nos duele.
David Otero, El Pescao, avec De l'autre côté de la mer, à l'autre lado del mare. Après l'Espagne, on va en Égypte. En Égypte, où le divorce verbal, c'est-à-dire le divorce sans document officiel, est un véritable cauchemar pour une large majorité de femmes. C'est une atteinte flagrante à leurs droits, une situation ambiguë qui risque d'empêtrer les femmes dans des situations inextricables. Comment peut-on trouver une issue à cette situation qui est répandue au sein de la classe ouvrière? On écoute le reportage de Dina Abdelmeguid.
Faut-il interdire le divorce verbal? Dans son allocution à l'occasion de l'anniversaire de la police le 24 janvier dernier, le président Sisi a demandé de promulguer une loi qui interdit le divorce verbal non légalisé. Une décision qui a suscité une vive polémique entre les oulémas de l'Azhar. En fait, la charia n'exige aucun document, ni pour le mariage, ni pour le divorce. C'est l'intention du mari qui compte. Il ne cesse de gagner du terrain, selon les dernières estimations, sur plus de 900 000 cas de mariage, 40% de ce divorce, soit un divorce tous les 6 minutes, un chiffre inquiétant qui menace la société égyptienne. Le divorce verbal, ou divorce sans document officiel, une situation très répandue, risque d'empêtrer les femmes dans des situations très compliquées. Cependant, le témoignage de la femme sur le fait que son époux l'aurait verbalement répudié ne lui garantit pas ses droits. Seul compte le témoignage de l'époux qui assure que le divorce a vraiment lieu ou pas. S'indigne Fatma Mohamed, avocate et membre du Conseil national de la femme.
Ce genre de divorce sans document officiel est une atteinte flagrante aux droits de la femme, car elle risque de perdre tous ses droits édictés par la charia et la loi, et je reçois tous les jours une dizaine de cas similaires. Et malheureusement, la femme se sent comme une marionnette dont les ficelles sont manipulées par le mari à son aise. Son avenir est incertain car elle ne possède aucun document qui lui permet d'entamer les procédures afin de rétablir ses droits. De même, elle ne peut pas remarier car ça sera illicite par la loi.
L'islam aborde les relations conjugales dans un contexte essentiellement basé sur l'amour et la bonté entre eux. En cas de divorce, la charia a établi une série de principes sur lesquels se base la séparation.
L'islam avait pour objectif de former l'esprit de l'individu, de sensibiliser sa conscience, la parole, gérer les transactions commerciales et les accords d'achat de crédit. Et c'est aussi la parole qui, dans ces sociétés primitives, organisait les relations entre les gens en ce qui concerne les fiançailles, le mariage et le divorce. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Personne ne tient sa parole et cela pose un problème, surtout en ce qui concerne le divorce, puisqu'il engendre un conflit.
Ainsi, le divorce verbal est une mauvaise exploitation de la religion et des lacunes du code civil. La femme se retrouve bloquée et ne peut pas prouver son statut civil, alors que le Coran a interdit cette attitude.
Souvent, il arrive que le mari nie avoir prononcé le divorce et dans ce cas, la femme se trouve obligée de le prouver auprès d'un tribunal. Et ce périple peut durer plus de 2 ans. Pire encore, parfois, le divorce a lieu au téléphone. Dans ce cas, la femme n'a aucun document pour prouver le divorce. Malheureusement, ce genre de divorce est très répandu au sein de la classe ouvrière et c'est une monnaie courante. Le mot divorce est couramment répandu chez les hommes comme moyen de menace, d'humiliation ou de signe de virilité. Les femmes, par contre, sont démunies financièrement et sont incapables de s'engager dans des conflits avec leur ex-mari et accepte de vivre dans cette situation pour élever ses enfants.
Le divorce ne doit donc pas être effectif que par la remise d'un document. Puisque le mariage ne se fait qu'avec un document, pourquoi pas le divorce aussi? Une expérience que certains pays arabes ont réussi à appliquer.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Voilà le sujet de Dina Belmeguide sur ce divorce verbal. Alors, c'est vrai que ça demande des explications parce que ça surprend beaucoup de monde et ça choque aussi, notamment les femmes en Égypte. Et pour en parler, en direct du Caire, Dina Belmeguide. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour Iman.
Bonjour Dina.
Avec une belle voix cassée, Dina.
Vous savez, il fait froid ces jours-ci en Égypte.
Dina, c'est vrai que c'est choquant hein, quand on voit que les femmes n'ont plus la parole, là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est l'avis du mari qui compte et c'est une atteinte aux droits des femmes. Et là, il n'y a pas beaucoup d'armes pour lutter contre cela.
En fait, c'est officiel, c'est-à-dire c'est connu. Il peut d'abord commencer par le dire verbalement et puis il va le légaliser. Mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne le légalise pas et il se contente de le dire en laissant la femme dans cette situation-là. Alors la femme n'a pas de documents qui prouvent qu'elle est divorcée. Alors comme ça qu'elle peut prendre tous ses droits de pension et de se remarier encore une fois. Donc elle se trouve dans l'impasse. Et c'est pour cela que on a dit puisque le mariage, on a un document. Il faut qu'il y ait un document pour se marier. Pourquoi pas le divorce?
En fait, c'est la répudiation traditionnelle. Je te répudie et c'est tout. Il n'a pas à justifier quoi que ce soit. Et elle, effectivement, se retrouve sans grand droit. Si lui ne joue pas le jeu, parce que dans la religion, une fois que c'est prononcé, il doit assumer. Et il assume aussi le fait qu'elle ait des droits au niveau des biens du couple, etc. Mais s'il ne légalise pas, elle a rien. Elle est à la rue.
Voilà, c'est ça. C'est ça le problème.
Est-ce que il y a un mouvement de rejet, un mouvement de mobilisation, ou alors est-ce que le fait d'être déjà dans cette post-révolution avec beaucoup de problèmes, avec des problèmes sociaux, avec ça ne mobilise pas ça?
Si, en fait, il y a quelques années, il y avait des activistes qui prônaient pour le droit de la femme et qui disaient qu'il faut vraiment trouver une solution. Et récemment, on a vu le président pour la première fois qu'il évoque ce problème. En fait, après les dernières estimations, on a trouvé qu'il y a beaucoup de divorces ces jours-ci et surtout verbal. Et toutes les femmes n'ont pas les moyens pour faire autrement. C'est-à-dire si l'homme refuse de la divorcer, de la répudier. Donc elle peut obtenir le khula, c'est-à-dire c'est elle qui fait un procès, voilà, qui fait un procès, qui tente un procès pour qu'elle se divorce. Mais à ce moment-là, elle doit renoncer à tous ses droits. Donc si elle a les moyens, elle le fait. Si elle n'a pas, elle doit être soumise.
J'avais même mis dans ton reportage, j'ai entendu qu'on pouvait même divorcer par téléphone. Il y a des hommes qui font ça.
Bon. Sûrement par tweet aussi.
Et par SMS.
Et même en le disant comme ça, parce que en fait, il le dit, et puis il dit « Ah non, 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 c'était pas vrai, non, j'avais pas l'intention vraiment de te répudier, donc c'est pas vrai, non. » Alors, c'est comme un jeu, quoi. C'est comme un jeu entre... avec l'homme.
Le fait que dans d'autres pays avoisinants, le divorce soit un acte judiciaire, il faut passer par le tribunal, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas servir comme ça, comme de jurisprudence ?
En fait, ce genre de procès, on en a. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il doit être légalisé religieusement comme le mariage. Quand on se marie, on a le mazoun qui écrit le contrat. Et on signe. Alors, le divorce aussi, on doit avoir ce mazoun avec le contrat de divorce. Comme ça, la femme peut demander tous ses droits, peut se remarier, peut tout faire. Peut même demander ses enfants.
La garde de ses enfants.
Oui, voilà.
Tu dis c'est comme un jeu que les hommes jouent, mais dans le problème des jeux qu'organisent les hommes, c'est toujours les femmes qui perdent. Hein. Donc voilà, là on va suivre ça. Donc,
avant très de... bien, très bien Thomas. Oui. J'aime cette...
Allez, on va écouter une chanson égyptienne que tu nous as choisie, Dina.
Oui, voilà, encore une fois, je vous ai choisi cette fois-ci le rossignol brun égyptien, Abdelhalim Hafez avec sa belle chanson « Regret ». Toba.
Merci Dina, tu étais en direct du Caire, la semaine prochaine.
Merci Thomas, à la semaine prochaine, au revoir Imane.
Au revoir.
Oh, comme était joli ton au revoir Imane.
C'est l'effet Dina.
C'est toujours
Dina.
La bonne humeur, la bonne
c'est
humeur de Dina.
Dina
ouais.
Toba, 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 Kunta, Hibak, Dani, Toba. Bassa, Billy, Maran, Tiba, Di, Akhir, Nouba. Toba, Daha, Toba.
Voilà, nous étions en Égypte avec ce sujet qui est très grave, hein, qui demandera aussi d'avoir qu'on s'y intéresse un peu plus concernant ce divorce verbal. Bon, ça me paraît un peu incroyable. Allez, après l'Égypte, on passe à la Corse qui, depuis 7 ans, voit sa châtaigneraie dévastée par un insecte venu de Chine, le Cynips. La forêt de châtaigniers recouvre 30 000 hectares. C'est toute une économie de l'intérieur, une économie montagnarde qui est en train de disparaître. Seule solution pour lutter contre le Cynips, la présence d'une autre guêpe chinoise, le Torimus, qui s'en nourrit, donc c'est un prédateur. De nombreux lâchers ont donc eu lieu, mais malgré ce fléau et la difficulté de la montagne, de nombreux agriculteurs ont décidé de rester et de se battre pour faire vivre une économie ancestrale. On écoute le reportage de Pierre-Louis Alessandri.
Depuis 2011, les castanéiculteurs corses trinquent. Ils ont perdu plus de 60% de leur production de farine de châtaigne et la Corse avec l'Ardèche sont les deux régions de France productrices. L'Ardèche a aussi connu cette attaque, comme la Toscane en Italie. Tout ont sauvé leur économie en innovant, mais avant tout en sauvant la châtaigneraie avec des lâchers de Torimus. Aujourd'hui, les premières éclaircies se font jour. En Corse, le groupement des producteurs a mis en œuvre une pépinière. Malgré les difficultés de vivre d'une économie de montagne, ils veulent sauver 700 ans de culture ancestrale qui a façonné l'identité insulaire. Pascal Flore, le président du groupement des producteurs.
Tout est difficile dans l'intérieur. Hein. C'est pas simplement produire de la farine, c'est se déplacer, c'est lutter contre les aléas climatiques, c'est trouver un médecin. Et aujourd'hui, les gens qui s'accrochent encore à ces territoires, ben, ils attendent un signal fort. Il y a des gens qui se battent vraiment au quotidien pour survivre. Parce qu'on est vraiment dans une attente très forte de voir enfin les moyens mis à disposition des sous-citoyens que nous sommes. Et aujourd'hui, la Châtaigneraie, en plus, elle est frappée par des problèmes terribles. Donc, c'est un combat encore plus difficile pour gagner la bataille. Donc, on attend vraiment d'être aidé et de permettre aussi de donner un avenir aux jeunes qui prendront la suite, parce qu'on est sur du verger qui est ancien. On l'a utilisé, il nous a rendu service, il nous a permis d'en vivre. Et aujourd'hui, à travers le projet de pépinière, c'est qu'on se tourne franchement vers l'avenir et qu'on espère enfin avoir des moyens accrus pour ces territoires extrêmement défavorisés.
Vivre à la montagne en Corse, comme dans d'autres régions de France ou d'ailleurs, est dur. La volonté des agriculteurs ne suffit pas. Et c'est pour cela que la France a voté une loi montagne et la collectivité territoriale de Corse a créé un office agricole et une agence foncière. Mais pour survivre, il faut innover. Et l'une des clés est la polyactivité. Un producteur, Stéphane Guérini.
On a essayé de travailler sur le matériel, on a essayé de travailler sur des méthodes un peu différentes de ce que faisaient nos vieux. Et ça a fonctionné. Et il est vrai que maintenant, de vivre de la castanéiculture, c'est tout à fait possible avec le matériel que nous possédons. J'ai été toujours partisan de la pluriactivité. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que pour s'en sortir ici, dans ce territoire un peu éloigné et compliqué, qu'il fallait être pluriactif, c'est-à-dire avoir plusieurs cordes à son arc. Et je recommanderais encore une fois aux jeunes qui vont s'installer chez nous, penser à la pluriactivité.
Polyactivité, innovation, modernisation, mais aussi une production de qualité avec l'agriculture biologique et la labellisation. Pascal Flore.
Les gens de la filière castanicole sont soit en AOP, soit en bio et en AOP. Donc on est vraiment sur des démarches de labellisation qui sont anciennes. Et je dirais même qu'au niveau des pouvoirs publics, on a réussi à faire admettre aux financeurs et aux politiques que pour avoir les aides maximales, il fallait tendre vers ça, vers l'AOP et vers le bio. Donc aujourd'hui, il y a tout un système de dotation qui font que plus on est labellisé, plus on rentre dans un schéma qui est un schéma de qualité et de signes de qualité, plus on est financé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'installation en castaniculture, sauf peut-être dans des zones où on estime que le CINIPS n'a pas encore fait des ravages suffisants, on acceptera un certain seuil de revenus venant de la castaniculture. Donc aujourd'hui, dans toutes les zones impactées, il n'y a plus d'installation en castaniculture, puisque la production étant impactée à 80%, 90%. Malheureusement, on attend que le taurimus fasse son effet.
La châtaigneraie fait aussi vivre d'autres activités que celles de production de farine ou de châtaigne. Elle alimente la filière miel et l'élevage. Mais en plus du CINIPS, il y a un mal endémique qui ronge cette économie, c'est la divagation sauvage des animaux. Une divagation qui, hélas, parfois tue les hommes quand elle déborde sur les routes de montagne à grande circulation. Pour l'instant, les quelques initiatives des pouvoirs publics ne donnent pas grand-chose, mais Pascal Flore y est clair, il faut que ça cesse. Sinon, rien ne sera possible.
Je pense à tous ces élevages qui, de près ou de loin, profitent aussi de la châtaigne à travers ce que j'appelle moi le fléau de la divagation, parce que la châtaigne, elle nourrit beaucoup d'animaux dans l'intérieur de l'île. Toute l'économie montagnarde est inféodée aux châtaigniers. On est en train de laisser l'environnement se laisser détruire par des pratiques d'un autre âge que nos anciens ne pourraient même pas accepter. Je veux dire, c'est lamentable ce qui se passe dans nos territoires au niveau de la divagation, de la destruction de nos environnements. Il est grand temps que là aussi, à travers la volonté politique, qu'on mette un terme à ce fléau qui crée une déshérence sociétale de grande ampleur, qui est gravissime, qui, je crois que ça fait partie d'un tout. Il y a le réseau routier, mais il y a aussi ça, ce genre de problématiques qui, à mon avis, sont une part importante de la désertification et de l'impossibilité de générer un développement rapide et efficace.
La montagne qui offre aussi, ici comme ailleurs, des potentialités touristiques loin d'être exploitées complètement.
C'était le sujet Corse, et un sujet qui sentait bon, qui fleurait bon, les forêts de montagne de la Corse. Mais ces forêts de châtaigniers sont menacées. Quand même, c'est curieux que l'insecte qui menace soit d'origine chinoise et que la guêpe qui sauve soit d'origine chinoise. Qu'est-ce qui se passe en Corse ?
On importe beaucoup de produits de Chine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu dramatique hein, pour la production de farine de châtaigne et de châtaigne, ouais. de toutes les producteurs de castanéicole, parce que c'est moins 60% de production, c'est énorme hein, pour une petite île comme la Corse. Et c'est vrai que le taurimus commence à faire son effet, parce que c'est le prédateur hein, de ce CINIPS, mais il faudra du temps, ça se fait pas en une saison ni en deux, ça se fera en quelques années, et on espère que la châtaigneraie corse reprendra vie, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Et puis tous ces gens qui se battent, bien entendu, pour que cet intérieur... Hein, que cette montagne eh bien survive. Il y a bien sûr l'écotourisme qui peut faire aussi un apport supplémentaire. Absolument. Pour l'économie. Mais voilà, donc la Corse est une île avec un beau rivage et aussi un intérieur fort que tu connais, que tu as traversé, Imane. Donc il faut que tout cela survive et vive. Et voilà, c'est un peu le but du reportage de Pierre-Louis Alessandri.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la détermination de ces gens qui restent dans la montagne et qui surtout prônent une diversification des activités. Et je crois que c'est la seule manière de sauver et les châtaigneraies et les villages eux-mêmes.
Absolument, bien sûr, il y a aussi des problèmes comme la divagation des animaux dont parlait le reportage. Donc il y a tout ça à réorganiser. Allez, on peut dire qu'il faut redynamiser cet intérieur. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent et j'espère qu'on arrivera bien entendu à des résultats. Allez, on va maintenant passer en Tunisie avec la journée mondiale des zones humides et le reportage Imane que nous a concocté Mayada.
Oui, alors la journée mondiale des zones humides est consacré chaque année depuis 1997 à la sensibilisation du grand public. Elle célèbre aussi l'anniversaire de la signature de la convention Ramsar en Iran par 157 pays le 2 février 1971. À ce titre, Mayada donc nous présente un nouveau concept élaboré par la Direction générale des forêts en Tunisie et le Fonds mondial pour la nature. La ville Ramsar, ou ville zone humide, c'est la ville de Rar el Malh, qui signifie grotte du sel au nord de la Tunisie, qui a été choisie pour devenir la prochaine ville Ramsar. Alors, que signifie réellement une ville Ramsar et pourquoi la ville de Rar el Malh a-t-elle été choisie? Réponse avec M. Habib Abid, directeur général des forêts en Tunisie.
Tout d'abord, le concept, c'est quoi la ville Ramsar?
En 2012, on a commencé un projet sur la ville de Rar el Malh. C'est le développement de la petite agriculture et en même temps l'aménagement de l'écomusée. Ouais. Et chaque fois qu'on se déplace sur terrain, les gens, ils lient leur vie quotidienne. Même en allant à l'école, il dit « j'ai pris la petite route à côté de la lagune Rar el Malh », donc la zone humide de Rar el Malh. Quelqu'un il va jouer du football, il dit « à côté de la lagune de Rar el Malh ». J'ai acheté mes poissons à côté de la lagune, les fruits, les légumes à côté de la lagune. On a dit « bon, s'il n'y a pas la lagune, il n'y a pas de référence dans cette ville ». Donc c'est pour cela qu'on l'a appelée la ville de la lagune, avant de parler de la ville zone humide. Donc ce concept a été développé avec les jeunes de VVF. On a dit « bon, c'est une ville qui ne peut pas exister sans la lagune ». Une ville qui dépend beaucoup de sa zone humide. Donc on a développé un petit concept. On a dit, dans la convention de Ramsar, qui s'intéresse aux zones humides d'importance internationale, on a dit pourquoi on parle toujours de la lagune seulement et pas ce qui se passe aux alentours. Donc on est parti à Glan, en Suisse.
C'est une première.
C'est une résolution internationale. Donc on est parti à Glan avec VVF et on a présenter ce concept. On a dit, au lieu de s'intéresser seulement à la zone humide, pourquoi ne pas s'intéresser aux alentours, et notamment les villes ou les petits villages qui en dépendent leur vie. Donc on a commencé à développer scientifiquement, on a mis 10 critères, que la ville doit avoir une zone humide, qu'elle préserve sa zone humide, qu'elle développe une journée internationale sur les zones humides. Donc on a mis tous ces critères et on les a présentés pratiquement à 150 gouvernements qui étaient présents lors de la conférence des parties des Ramsar. Et ils ont adopté ça. Donc ceux qui nous ont aidés pour la préparer, il faut le dire, donc directement, c'est la Corée du Sud. Elle était très enthousiaste pour ça et on a dit, on vous appuie, on travaille avec vous. Il y avait le VVF avec nous, il y avait la convention Ramsar avec nous. Et maintenant, c'est un concept au niveau mondial et qu'on est en train de le préparer pour 2018. On va annoncer pratiquement au moins une cinquantaine de villes dans le monde entier, en tant que ville qu'on appelle ville zone humide, ville qui développe ses zones humides, une ville qui dépend de ses zones humides et qui fait la prospérité de sa population au dépend de cette zone humide. Mais toujours en valorisant et en respectant cette zone humide.
Donc parmi ces 50 villes, il y a la ville Rar el Malh, mais c'est certainement plus qu'un titre, plus qu'un label, ville Ramsar. Qu'est-ce que ça va apporter à Rar el Malh?
Rar el Malh, elle va être connue au niveau mondial. Et on espère l'avoir en tant que première ville au niveau mondial. On est en train de parler que la jeunesse et l'idée, elle provient de Khair el-Melh. Et vous savez, il y a les écologistes, les environnementaux. Dès qu'on entend, par exemple, d'un monument naturel, les gens ils vont le visiter, ils vont venir exercer un écotourisme, tout un développement. Et en même temps, c'est un modèle qui va apporter même des fonds pour Khair el-Melh, pour être plus préservé en tant que modèle au niveau international.
Voilà, les zones humides qui, chaque année, le 2 février, ont leur journée mondiale. Et c'est vrai que ce sont des zones particulières. Il y en a un peu partout, en Corse, sur la côte orientale notamment. Des zones où la faune et la flore sont assez intéressantes à observer. Cette journée mondiale peut être aussi importante pour ces zones, et notamment pour les gens qui vivent autour. Et c'est un peu le sens aussi de ce reportage. Il n'y a pas que les étangs, il n'y a pas que les zones humides. Il y a aussi toute cette activité qu'il faut mettre en valeur.
Et puis cela va booster le tourisme autour de cette ville du nord de la Tunisie, ce qui n'est pas un luxe, parce que le tourisme tunisien a beaucoup souffert.
Complètement, oui. Allez, une chanson tunisienne d'ailleurs, alors je te laisse la présenter.
Oui, ouais. Alors Mayeda a choisi pour nous cette semaine une chanson qui s'intitule Nasaya, et c'est une chanson rendue célèbre par Lotfi Bouner et reprise ici par Tan Arah.
نسايا نحبك وانت نسايا نسايا من وقت صغر ولقرايا نسايا نحبك وانت نسايا نسايا من وقت صغر ولقرايا نحبك انا من وقت اللي سكنت حدانا وشفت على خدك رمانة كي تحكي تخليني حكاية نحبك انا من وقت اللي سكنت حدانا وشفت على خدك رمانة كي تحكي تخليني حكاية كنا صغار نخاف من الغول والطهار كنا صغار نخاف من الغول والطهار نحشم من غزرة الكبار نستعد النجمة بغنايا نسايا نسايا
Et comme chaque semaine, notre agenda culturel avant de nous quitter. La ville d'Agadir abrite du 30 mars au 3 avril le Festival international du théâtre universitaire, initié par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Ibn Sor. La 22e édition connaîtra la participation de plusieurs troupes théâtrales universitaires du Maroc, de France, du Maghreb et du Canada. Un colloque sera également organisé sous le thème « Le théâtre aujourd'hui, écriture et art de la performance ». Il sera animé par des dramaturges, des comédiens et des universitaires. Le Festival du théâtre universitaire est un espace de dialogue interculturel.
Alors, le photographe tunisien Wissam Roslani expose Postcard from Tunisia au PotMed Liban 2017 jusqu'au 8 février. Il aborde son thème de prédilection, les ruines. Pour son édition 2017, PhotoMed Beyrouth propose une série d'expositions dans différents lieux de la capitale libanaise et avec la participation de 18 photographes issus de plusieurs pays de la Méditerranée, Espagne, Italie, Grèce, Liban, etc. Cette édition 2017 a été conçue par Guillaume de Sardes comme commissaire des expositions autour de quatre thèmes, le cinéma, la poésie des ruines, la ville et les années 70.
Le musée d'art islamique du Caire a été inauguré la semaine dernière par le président de la République après 3 ans de fermeture suite à l'attentat terroriste du 24 janvier 2014 qu'il avait endommagé. Après un long travail de restauration et une nouvelle muséographie, il a enfin ouvert ses portes au public vendredi dernier. Une inauguration très attendue. Ce musée abrite la plus grande collection de pièces d'art islamique au monde avec un total de 100 000 pièces antiques rares.
Carmen Cervera, baronne Thyssen devant l'Éternel, menaçait d'emporter 429 tableaux de sa collection personnelle hors du musée Thyssen de Madrid. La cession a expiré le 30 janvier et la baronne exige de pouvoir disposer de ses tableaux, ou du moins d'une partie, à sa guise lors d'expositions internationales et autres. Mais que l'État espagnol devra régler bien bien sûr. Il devra régler les assurances et autres menus frais. Le tout Madrid retenait son souffle, mais le lendemain du 30 janvier, la baronne et le ministre de la Culture ont annoncé d'un commun accord la prorogation de l'accord de cession pour 3 mois, au cours desquels seront négociées les nouvelles conditions de cession de la collection à l'État espagnol. On respire.
Le jeudi 9 février, à l'Espace Diamant, Ajaccio danse avec Noce de Sang et sa suite Flamenca, un spectacle andalou avec l'artiste Antonio Gades. Noce de Sang de Federico Garcia Lorca, une tragédie de force et de beauté, mise au goût andalou avec musique, guitare et danse. Allez, on va écouter une chanson corse avant de nous quitter. Elle est chantée par le groupe Diana Dilalba et son titre Spassatempo, ça peut se traduire comme passe-temps.
Spassatempo, spassatempo, che mi trovo spassatempo, quando è l'uva saudempo, lascialo, lasciala andà, capitonde, capitonde, e cullore, capitonde, e cullore le seconde, ognuna va, sine vanu, a caspade sine vanu, e la sponda strinta a mano, lasciala, lasciala andà. Spassatempo, spassatempo, che mi trovo spassatempo, quando è l'uva saudente, lasciarù, lasciarà andare, capitonde, capitonde, e cullore, capitonde, e cullore le seconde, ognuna, ognuna va, sine vanu, a caspade sine vanu, e la sponda strinta in mano, lasciarà, lasciarà andare.
Lega corda lena, ma non è stonde per volta, muore la gioia e cua pena, non residiamo a libertà. Cu tempo con la briglia sciolta, porta l'amica e lo piace, quelli odi ed una volta, si ne va lontano da te.
Spassatempo, spassatempo, che mi trovo un spassatempo, quando è l'uva sa un tempo, lascialo, lascialo andare. Capitonde, capitonde, e cullore, capitonde, e cullore le seconde, ognuna, ognuna va, sine vanu, a caspade sine vanu, e la stonda strinta in mano, lasciala, lasciala andare.
Voilà, c'était Diana Dilalba pour cette dernière chanson de ce numéro de Kantara. Kantara, on le rappelle toujours, mais il faut le faire, qui est une belle coproduction, Imane.
Oui, je dirais même un réseau de complicité avec Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM Corse, chaîne Inter-Rabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale.
Alors, ce Kantara à Ajaccio était réalisé par Stéphane Casalonga.
Et à Madrid, Miguel León.
Alors n'oubliez pas de jeter un œil à notre page Facebook pour y retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter ce numéro de Kantara. Voilà, ce Kantara est terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Et qu'est-ce qu'on dit, Imane ? À la semaine prochaine.
On dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.